Gloire à Dieu. Comme c'est son anniversaire, j'ai demandé à ma femme de vous apporter un bouquet de textes qui serviront à notre méditation.
Alors, ça, c'est plus pratique. Bonjour. Alors, nous lisons dans Ésaïe 55, versets 1 à 5. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasit pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Alors nous voyageons jusqu'à 1 Corinthiens chapitre 7, versets 29 à 31. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Dans les Actes, au chapitre 4, verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait la distribution à chacun selon qu'il en avait besoin. Et un récit dans Marc, chapitre 14, verset 1er. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers, le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer.
Seigneur, c'est par ton esprit que nous pouvons lire ta parole. Ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux par la puissance de ton esprit à travers cette méditation. Amen. Amen. Voilà, j'ai enlevé mon masque, je l'ai mis là, ça fait un peu pasteur protestant. Comme je n'ai pas mis de cravate, j'ai mis une bavette. Un titre pour cette dernière lecture, j'ai pensé à ceci. Quelques grammes de finesse dans un monde de brutes. C'était, il y a quelques années, une publicité pour du chocolat. Oui, on trouve ce récit dans les quatre évangiles, c'est-à-dire son importance. Ils nous sont rapportés dans des contextes différents et mis au service de visions différentes. Ce matin, nous allons nous en tenir à Marc. La finesse en question. Je parle non pas de goût et d'odorat ici. Je voudrais parler d'une finesse au sens de l'intelligence, d'un discernement. Cette femme, c'est une fine mouche. Chez Simon, le lépreux, on est en bonne société et les conversations sont animées. Le maître vient de leur donner un grand discours, un enseignement important sur l'avenir du règne qui s'annonce. Ça touchera l'hiver, il y aura des catastrophes, etc. Vous connaissez par cœur, je sais, ce chapitre 13 de Marc. L'heure est grave. On discute, on évalue peut-être les moyens et les méthodes d'action par lesquelles le projet du maître pourrait se réaliser. Et voilà qu'une femme arrive et bouscule tout cela. Elle perturbe les beaux discours de ces messieurs. Son geste un peu fou heurte et scandalise ce cénacle sérieux où l'économie doit jouer un rôle important, entre parenthèses. Non, mais à quoi pense-t-elle s'est évaporée ? Et tout de suite, on estime une perte d'argent, un gaspillage inutile. Quasiment une année de salaire sur la tête de Jésus. Une année de salaire. Si je m'en tiens à la valeur du denier dans Matthieu, dans le chapitre des Matthieu 20, la parabole des ouvriers. Si on remonte vers la fin du chapitre 12 de Marc, on trouve une autre histoire d'argent. Celle des offrandes apportées dans le tronc, notamment par une autre femme qui, elle aussi, fait ce qu'elle peut. Et elle peut peu. Et elle le fait totalement, malgré l'extrême modestie de son offrande. La ressemblance entre ces récits est frappante. En dépit des apparences, Jésus souligne la dignité de cette femme misérable. Elle a mis plus que tous les autres. Elle a mis sa vie. C'est le terme grec utilisé par Marc. Elle a mis son bios dans le tronc. Nous pouvons comprendre aisément comment ces choses parlent à Jésus. Il ne peut que ressentir profondément l'écho de ce qu'il attend et ce qu'il prépare à faire. Lui aussi mettra sa vie sur la croix. C'est pourquoi sa réaction est si vive, comme indignée. Jésus est indigné par la réaction de ces messieurs et il va justifier cette femme. Il va relever sa dignité elle a agi en prophète, dit-il. Elle a agi selon une autre perception de l'histoire où les valeurs sont inversées. Et il va jusqu'à annoncer que le souvenir de son geste accompagnera la prédication de l'Évangile partout jusqu'à la fin. Le don de sa vie sur la croix est aussi, à la ressemblance de ce qu'ont fait ces femmes, un geste de foi, un geste d'amour, un geste d'espérance. En effet, dans sa réaction même, et particulièrement dans cette annonce, que l'Évangile serait annoncé dans le monde entier, Jésus, à travers cela, n'annonce-t-il pas implicitement que sa mort ne sera pas le dernier mot de son histoire? Qu'une continuation et une diffusion mondiale de l'Évangile sera rendue possible par la puissance de sa résurrection. Ce sera le triomphe universel de la grâce, c'est-à-dire de la gratuité, tiens, comme Ésaïe l'annonçait, sans argent, sans rien payer. C'est étrange pour nous qui, depuis notre venue au monde, avons entendu qu'il faut gagner sa vie, il faut mériter sa vie, il faut être performant, efficace, rentable. Combien le discours de l'Évangile va à contresens. L'esprit de l'Évangile, c'est la gratuité. C'est la libéralité de Dieu. C'est l'amour inconditionnel, inconditionnel de Dieu. Voilà qui nous bouscule étrangement, même aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que Jésus prend la défense d'une femme. Vous avez un autre exemple en tête, par exemple ? Dites-moi. La Samaritaine. Marie, la sœur de Marthe. Et puis, il y a sûrement d'autres circonstances. La femme adultère. Alors, plusieurs questions me sont apparues dans la méditation de ces textes. Il est question de finesse, ai-je dit tout à l'heure, de discernement. Alors la première question, c'est: discernons-nous les temps que nous traversons? Cette question doit nous habiter. Paul écrit, on l'a lu tout à l'heure, que le temps est court. Ça, nous savons que ça passe vite. Nous le savons tous. Moi, j'en reviens pas, hein. Les années passent, ça y est, on court après. Comme disait un prédicateur en regardant sa montre, il dit, c'est pas une montre, ça, c'est un ventilateur. C'est pas dans ce sens-là que Paul parle. Il utilise le mot kairos. C'est pas le temps chronologique, c'est un événement qui se déroule, une histoire qui se déroule. Et il dit, c'est la traduction littérale, le temps a été comprimé. Comprimé. Il a acquis une dimension, une densité, je dirais, une densité nouvelle. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Le temps que nous vivons a acquis une densité nouvelle. Comprimé par qui ? Depuis quand ? Eh bien, comprimé par la venue, les gestes et les paroles de Jésus. Voilà ce qu'a discerné cette femme. Il y a dans la présence, les paroles et les gestes de Jésus, pour elle, la révélation de quelque chose qui est en train de basculer, de changer fondamentalement. Et comparé à elle, ces beaux parleurs qui ont hâte de voir venir le royaume, sont à côté de la plaque. Et Jésus a compris cela. Il a vu, à travers le geste de cette femme, que elle avait compris l'essentiel. Ce que semble avoir compris la femme, c'est qu'avec Jésus, des temps nouveaux sont arrivés. Tandis qu'aux yeux des convives, on ne dit pas lesquels, mais enfin plusieurs d'entre eux, cette femme est vraiment déraisonnable. Aux yeux de Jésus, elle agit en prophète. Elle agit à la façon des prophètes bibliques qui mettaient leur message en scène. Vous vous rappelez d'Ésaïe ou de Jérémie ou d'Ézéchiel qui ont dû adopter des comportements pour le moins étranges. Je pense aussi à Osée, il fallait oser d'ailleurs, pour mettre en scène le message que Dieu voulait adresser à son peuple. Eh bien, voilà ce que comprend Jésus. Cette femme, je ne sais pas si c'est l'intention de la femme, si elle en est bien consciente, hein, je ne sais pas. Est-ce qu'elle ne serait pas amoureuse de Jésus ? Peut-être. Toujours est-il que Jésus donne ce sens à son geste. Elle agit en prophète. Sinon, pourquoi Jésus réagit-il si vivement à cet épisode ? Elle agit avec une finesse, un discernement du moment qu'ils sont en train de traverser avec la venue de Jésus. Et par le Saint-Esprit, il comprendra plus tard combien ces moments, ce moment de l'histoire que Jésus marque de sa présence, de son message, de ses gestes, de sa mort sur la croix, ces temps-là sont vraiment des temps uniques, un basculement profond où tout est renversé. Voilà pour la première question. Discernons-nous les temps, la qualité du temps que nous vivons ? Je trouve que c'est encourageant finalement parce que, voyez-vous, nous avons, nous, la ressource de pouvoir discerner autre chose derrière l'actualité, derrière ce que le monde traverse. Cette épreuve de la pandémie, l'écroulement d'une société qui se lézarde de tous les côtés. Nous pouvons voir cela autrement. Et c'est ce que fait l'Évangile d'ailleurs. Quand ces choses commenceront à arriver, relevez vos têtes, votre délivrance approche. Il y a un autre texte qui compare les souffrances du monde à des souffrances d'enfantement. Qu'est-ce qui va être enfanté ? Qu'est-ce qui a été enfanté dans la résurrection de Jésus ? Le règne de Dieu sur la terre comme au ciel. Et c'est ce que nous sommes invités à demander à Dieu tous les jours, constamment. Nous avons ce privilège de voir ce que les gens ne voient pas, de ressentir ce que le monde ne peut pas ressentir. Réjouissez-vous, frères et sœurs, pour le privilège que vous avez, que nous avons. La deuxième question que j'aimerais un peu développer concerne la place de l'argent dans nos vies, dans nos esprits plutôt. La scène de l'onction à Béthanie entraîne le récit du départ de Judas. Il y a un lien entre les deux. Judas, ça l'énerve. Alors il s'en va. Je ne sais pas s'il a claqué la porte. Il s'en va, il va voir les chefs dans le dessein de leur livrer Jésus et ils lui promirent de l'argent. Judas réagit comme si pour lui c'en était trop. À quoi donc pense Jésus ? N'a-t-il pas déjà trop tardé à manifester la puissance de son règne messianique ? Le fils de David peut-il tolérer un tel gaspillage, une telle évaporation des valeurs de ce siècle ? Pour lui, c'est insupportable et il va mettre Jésus au pied du mur. Ce n'est pas seulement par cupidité que Judas agit. Je dirais que c'est par déception. Judas a été déçu par Jésus. Alors, il veut provoquer les choses. Il veut bousculer les événements. Et il veut livrer le maître qui s'en débrouillera bien pour s'en sortir une fois de plus, pense-t-il. Il faut remarquer que, selon Marc, Judas n'a pas négocié le prix de sa trahison. Simplement, les prêtres lui ont promis de l'argent. Les disciples, à ce moment de l'histoire, sont plus préoccupés par le salut d'Israël, d'un Israël dominant le monde. Make Israel great again. Ouais. Ils sont plus préoccupés par cette grandeur que par le salut des nations qui répond à une autre grandeur, la grandeur de l'amour infini de Dieu. Au verset 10 du chapitre 13, Jésus avait pourtant affirmé « Il faut d'abord que l'Évangile soit annoncé à toutes les nations. » La bonne nouvelle, ça se partage avec les autres. Marc place ce récit juste après le discours que Jésus tient sur la fin des temps. Impatient de voir l'avènement du règne messianique et de la part qu'ils y prendront, les disciples veulent connaître le déroulement des choses. Si vous relisez ce chapitre 13 de Marc, ils s'assemblent autour de Jésus parce qu'ils sont là en train d'être ébahis devant la beauté du temple. Et puis Jésus dit « Ouais, tout ça, ça va être fini ». Ça va être balayé. Alors là, ils sont complètement décontenancés. Ils s'approchent de Jésus, ils disent, dis-nous, quand ? Ils ont plein de questions. Quand, où, comment ? Et c'est le grand discours du chapitre 13. Ils sont impatients de voir l'avènement du règne messianique et de la part qu'ils y prendront. Les disciples veulent connaître le déroulement des choses. Ne nous trompons pas là-dessus. Cette impatience est remplie d'ambitions bien humaines. Elle ne les a jamais quittées. On va la retrouver jusque dans le début du livre des Actes, quand Jésus leur demande de rester à Jérusalem et d'attendre ce que le Père a promis. Qu'est-ce qu'ils lui disent ? Seigneur, est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume pour Israël ? Ah ! Et là, ils ont une douche froide. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous, au charbon, au boulot, à la mission et au témoignage, avec l'aide de l'Esprit et sous la conduite de l'Esprit. N'avaient-ils pas discuté entre eux pour savoir qui jouerait les premiers rôles ? La mère de deux d'entre eux ne s'en était-elle pas aussi mêlée ? Ordonne que mes fils, que voilà, c'est une vraie maman juive, hein, soit assis à gauche et à droite. Puis Jésus leur dit, non, mais ça ne va pas. Et en effet, on a vu qui était à gauche et à droite au mont Golgotha. Deux brigands. Golgotha présenté comme une cour royale. Quel paradoxe. C'est pourtant là que le règne de Dieu s'enracine. Viens vers nous. Et c'est ça qui va marquer la prédication de l'Évangile. Et c'est ça qui doit imprégner nos esprits. Dès lors, ça nous met à grande distance de notre monde. Notre époque n'est-elle pas aussi dominée par l'économie ? Par les questions financières, du haut en bas de l'échelle sociale. Avez-vous remarqué combien les chiffres dictent nos normes d'appréciation ? Ne mesure-t-on pas le talent de tel écrivain ou de tel musicien, non pas à la beauté de son œuvre, mais au nombre de disques qu'il a vendus, ou de livres qu'il a vendus ? Ah, c'est quelqu'un, il a fait des ventes records. Alors on achète le bouquin, puis on s'aperçoit que c'est de la meringue. C'est plein d'air. Nos conversations en famille, entre collègues, ne sont-elles pas émaillées d'allusions à la valeur monétaire de tout et de n'importe quoi ? c'est vraiment omniprésent, cette présence de l'argent. Nos gouvernements, soi-disant élus démocratiquement, ne sont-ils pas en réalité au service de puissances financières qui leur dictent la loi économique ? Ils ne sont pas libres. Ils nous imposent ce qu'on leur impose. Il faut prendre conscience de ça. Qui pouvons-nous ? Eh bien, nous pouvons mettre dans nos esprits ce monde de l'économie du chiffre, mettre cela à distance, avoir cette finesse, cette légèreté. L'Évangile nous invite à la légèreté. Jésus ne fait-il pas preuve de légèreté quand il dit « Oh, les pauvres, vous en avez toujours avec vous, et vous pourrez leur faire du bien quand vous voulez. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. » J'ai souvent été étonné un peu par cette parole de Jésus, comme s'il était un peu désinvolte. Non, il n'est pas désinvolte, il n'est pas léger, mais il est conscient de ce qu'il est venu mettre en place. Bien sûr, nous ne pouvons pas vivre sans l'argent, mais nous pouvons le tenir à distance dans nos esprits, nous sentir libres, malgré notre condition sociale, malgré ce que nous traversons au travail. J'ai déjà entendu de plusieurs personnes ici leurs difficultés au travail, au boulot. Habiba nous en a reparlé ce matin. C'est vrai, c'est un monde impitoyable, un monde difficile, mais la grâce de Dieu, c'est de nous donner un regard différent sur ces choses. Tu es pauvre, ce n'est pas grave. Tu es riche, ce n'est pas grave non plus. Sache cependant en faire bon usage. La richesse nous responsabilise. Et Calvin, à Genève, a développé vraiment cette notion de la richesse qui doit être investie, mise au service du fonctionnement de la société. Nous pouvons tenir à distance l'argent. Il est un moyen, il n'est pas une fin. Il y a une sœur à Nantes qui me disait toujours « L'argent ne fait pas le bonheur, mais il calme bien les nerfs. » Oui, bien sûr, c'est utile. Mais ayons cette finesse, cette légèreté vis-à-vis de l'argent, qui est une question si grave pour nos contemporains. Obsédante, lourde. Eh bien, je pense que nous avons, nous, le privilège d'apporter une autre odeur. Il est question d'un art pur répandu sur la tête de Jésus. Ça a dû sentir fort. Il paraît que le nard, ça sent pas bon. C'est pas un parfum agréable. On s'en servait pour, effectivement, l'embaumement des corps. C'est une substance tirée d'un arbrisseau de l'Himalaya, de région montagneuse en tout cas, et il valait fort cher, bien sûr le texte nous le dit. Mais je pense que notre vision du monde, de l'argent, de l'histoire, notre façon de sentir les choses, devrait être comme un parfum un peu dérangeant, un peu étrange. Paul parle du témoignage chrétien comme d'une odeur de vie, donnant la vie. Nous sommes de la part du Christ comme un parfum de Dieu, une odeur de vie donnant la mort, la vie, ou une odeur de mort donnant la mort. On aura peut-être l'occasion un jour de méditer là-dessus. L'argent est un moyen, pas une fin. Il peut notamment changer le sort des pauvres, c'est vrai. Et c'est là que m'est venu à l'esprit ce texte des Actes des Apôtres. L'Église, jaillie de la Pentecôte, faisait l'admiration du peuple de Jérusalem. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. On vendait, on mettait tout en commun, et ont partagé entre tous selon les besoins de chacun. Et pas selon les performances de chacun ou les mérites de chacun, mais selon ses besoins. Et c'est exactement ce que Jésus nous dit dans la parabole de Matthieu 20. Les ouvriers payés une journée de salaire alors qu'ils n'ont travaillé qu'une heure. Le patron les paye en fonction de leurs besoins. Ils ont les mêmes besoins que les autres. Voilà qui, pour notre monde, est un peu étrange. Bien, j'accélère. Troisième question, et ce sera la dernière. Ésaïe annonce une loi nouvelle, celle de la gratuité. Autrement dit, la loi de la grâce. La fin du règne de l'argent comme seule manière d'habiter le monde et l'histoire. Et l'Évangile porte cette affirmation choquante à son comble. Et c'est ce que nous avons vu dans cette scène de l'onction à Béthanie. Voilà des questions qui surgissent comme cela. À nous de leur apporter une réponse dans notre vie de chaque jour. Que le Seigneur nous donne d'être un témoignage à la face de notre société, un témoignage encourageant, consolant, plein d'espérance. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ouais, il me semblait que j'avais trois. Ah ben oui, j'ai un troisième feuillet. Oh bof. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est ça. Voilà. Qu'un peu de cette légèreté, de cette finesse nous soit donnée, pour qu'au travers de notre témoignage, paroles et actes, notre monde devienne un peu plus respirable. Le royaume de Dieu a tout à y gagner. Amen.
Amen.
Bon, ben voilà, on va remettre ça. Tous aux abris.